Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, merci de votre fidélité. C'est aujourd'hui notre sixième mardi d'éthique publique à distance. Nous tenterons ce soir d'entrevoir les conséquences de la pandémie actuelle sur nos politiques de santé publique et même sur la notion de santé tout court. Affirmer que le système de soins français et en particulier le secteur hospitalier public était mal préparé à la crise sanitaire que nous connaissons est devenu un lieu commun. Les Cassandres du « je l'avais bien dit » invoquent tour à tour l'irresponsabilité et la tromperie de nos dirigeants, qui avaient laissé détruire des stocks de masques sans les renouveler, l'opacité des décisions en matière de confinement et déconfinement, et surtout, bien sûr, la dégradation de nos hôpitaux, pourtant longtemps considérés comme parmi les meilleurs du monde, sinon même les meilleurs tout court. À ce sujet, la virulence des critiques envers ceux qui nous gouvernent, notamment sur les restrictions budgétaires et les mauvaises conditions de travail des personnels soignants, la violence de ces critiques a fait que les responsables politiques ont semblé à certains moments devoir soigner davantage l'hôpital que les malades eux-mêmes. La question qui vient alors à l'esprit est celle des effets à attendre de cette crise, toujours en cours, à moyen et long terme, sur les politiques de santé publique, à moins qu'il ne s'agisse de s'en tenir à un Grenelle de la santé et à la revalorisation des rémunérations des acteurs de ce secteur. Dans un entretien accordé au journal Le Monde en juillet dernier et qui est reprise dans son dernier livre, Jean-Pierre Dupuis rappelait que le philosophe Ivan Illich, dont il était proche, avait publié en 1975, sous le titre de Némésis médical, une critique radicale, je cite, plus pertinente que jamais, du monopole que l'institution médicale exerce sur la santé. Dans cet essai, Ivan Illich écrivait que la médicalisation des sociétés, telle qu'elle s'était accentuée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nuisait en fait à la santé de chacun. 25 ans plus tard, il nuançait son propos en soulignant que, contrairement à ce qu'il avait tenté de montrer dans un premier temps, ce n'était pas la corporation médicale qui était responsable de cette situation, mais bien le secteur industriel de la santé qui ne cessait d'étendre son emprise sur les soignants tout en déresponsabilisant les soignants. En 2014, dans son ouvrage Face aux risques épidémiques, le professeur Didier Houssin affirmait de son côté qu'il était temps de considérer les épidémies comme des catastrophes naturelles, notion sur laquelle il conviendra sans doute de revenir, et pas seulement comme des accidents technologiques. Et face aux crises à venir, soulignait-il, de nombreux décès prématurés et de grandes souffrances pourraient être évités si chacun, bien informé et motivé, devenait acteur de santé pour lui-même et pour les autres. La pandémie actuelle a réactivé la pertinence de ces réflexions. Et nous sommes heureux d'accueillir, pour nous aider à discerner de nouveaux horizons, Jean-Pierre Dupuis, professeur émérite à l'École Polytechnique, professeur titulaire à l'Université Stanford en Californie, auteur d'une quarantaine d'ouvrages, dont dans le secteur qui nous intéresse, Pour un catastrophisme éclairé, Dans l'impossible est certain, en 2002, et Petite métaphysique des tsunamis, en 2005. Il vient de publier La catastrophe ou la vie, Pensée pour un temps de pandémie, tout cela aux éditions du Seuil. Le professeur Didier Houssin est président du comité d'urgence COVID-19 de l'Organisation mondiale de la santé, membre de l'Académie de médecine, ancien directeur général de la santé et auteur en particulier en 2014 chez Odile Jacob de Face aux risques épidémiques, ouvrage qui vient d'être cité. Et en mai prochain, il publiera, toujours chez Odile Jacob, L'ouragan sanitaire du Covid, comment sortir définitivement de la pandémie et préparer l'avenir. Et docteur Houssin, vous avez la parole pour nous éclairer sur la question que vous posez vous-même.
Merci beaucoup. Merci d'abord de m'avoir invité. Merci à Monsieur V, merci à Monsieur Poutier, merci au département d'éthique publique donc du Centre Sèvres. Alors, la question qui est posée, COVID-19 vers une nouvelle politique de santé, point d'interrogation, je pense qu'on peut partir sans trop se tromper du constat que nous vivons actuellement un événement qui est effectivement assez légitimement susceptible de conduire à essayer de répondre à ce genre de questions. J'ai regardé le dernier bulletin de l'OMS sur la situation épidémiologique. Nous en sommes aujourd'hui à 130 millions de cas recensés dans le monde et à près de 3 millions de décès, et avec une courbe épidémique qui n'est pas d'allure sympathique, puisque depuis le mois de février, s'amorce une inversion de la tendance épidémique, alors que la situation s'améliorait, on assiste à une augmentation à nouveau des cas en Europe, en Amérique du Sud, dans le sud-est asiatique en particulier. Donc, nous sommes face à un événement d'une ampleur considérable et si l'on fait référence, par exemple, à un événement assez voisin qui était survenu au début du XXe siècle, lors de la grippe espagnole, ça avait été effectivement un événement qui avait déclenché une prise de conscience en matière de santé, avec aussi bien au niveau international qu'au niveau national des initiatives nouvelles. Je me souviens par exemple que le responsable de l'Office international de santé, qui était un Italien à l'époque, avait demandé à ce que les pays se préparent aux risques épidémiques, et c'est à cette occasion-là que, sur l'initiative de Clémenceau puis de Millerand, avait été créé la première création d'un ministère de la Santé en France. Donc, que Covid-19 soit un événement susceptible de déclencher ce type d'initiative ne fait pas de doute. J'ai mentionné les impacts sanitaires, mais il faut également évoquer l'impact économique et social, avec des dizaines de millions de personnes qui sont jetées dans la pauvreté, avec un nombre important de pertes d'activité, de chômage, une sorte de perturbation très importante des relations internationales, avec dans beaucoup de pays la suppression du tourisme, qui est malgré tout une façon de vivre pour beaucoup de populations, des perturbations importantes dans l'organisation du travail, un impact sur l'éducation, sur la culture. S'agissant de l'organisation du travail, je crois que la réunion d'aujourd'hui en est un témoin. Nous sommes conduits à nous rencontrer à travers ce système de visioconférence. Alors, vous l'avez évoqué au début, que Covid-19 et révéler des faiblesses ne fait pas de doute. Alors, c'est vrai que c'est facile de faire de la lucidité a posteriori, c'est plus simple, c'est assez simple même. Mais on peut évoquer parmi les faiblesses qui ont été aujourd'hui identifiées une certaine impréparation. Je suis assez convaincu qu'il y a eu un travail de préparation entre les années 2005 et 2010 du fait de la grippe aviaire et de la menace de pandémie grippale lié à un virus influenza H5N1, puis qui s'est manifesté à travers la pandémie H1N1. Et il faut reconnaître qu'à partir de 2011-2012, en France, mais sans doute aussi un peu en Europe, il y a eu une sorte de on a baissé les bras, on a cessé de se préparer, comme on l'avait fait pendant plusieurs années. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais du travail de planification, des exercices, des évaluations, sans parler même des stocks stratégiques qui avaient pu être constitués et qui ont été un peu abandonnés. On a évoqué aussi, vous l'avez évoqué, l'impact que des mesures d'austérité en matière de santé, la contrainte exercée par l'ONDAM, vous savez, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, a exercé sur le milieu hospitalier, peut-être sur les places de réanimation, et on a constaté effectivement à l'occasion de cet événement, qu'il n'y avait pas autant de lits de réanimation que pour permettre de faire face à un événement de cette nature. Je pense aussi qu'en Europe et en France, on a probablement eu une faiblesse en matière de recherche et de développement dans le domaine de la biologie santé par rapport à d'autres pays, et il est sûr que ça fait partie des analyses qui peuvent être faites. Alors, que des leçons soient tirées de cet événement, c'est certain. Il y a déjà des leçons qui ont été tirées, il y a des leçons qui vont être tirées, notamment au niveau mondial. Il y a actuellement un comité d'évaluation qui se penche sur les leçons à tirer de cette pandémie. Il y a un panel indépendant également qui a été réuni à l'initiative des États membres de l'OMS. En France, où on n'est jamais exempt d'esprit critique, eh bien, il y a au moins trois instances qui ont commencé à évaluer la situation. Commission d'enquête de l'Assemblée nationale, commission d'enquête du Sénat, le groupe indépendant mis en place par le président de la République. Finalement, c'est au niveau européen que l'on est plutôt le plus timide en matière d'évaluation. On n'a pas vu encore de grands mouvements d'évaluation lancés au niveau européen. Alors, tirer des leçons ne veut pas dire que l'on va être capable de mettre en place des choses nouvelles. Et la question de est-ce que cet événement va conduire à une nouvelle politique de santé, me semble aujourd'hui incertain, car il est sûr que même si l'événement était très important, la volonté politique peut s'affaiblir. Il y a ce qu'on appelle le phénomène des successions qui fait que bah, finalement une équipe chasse l'autre, des préoccupations chassent l'autre, et au bout du compte, on a une certaine capacité à oublier les épidémies. Est-ce que effectivement celle-ci sera d'une importance telle qu'elle ne sera pas oubliée? C'est une question qui va se poser. Alors, qu'est-ce que peuvent être les politiques de santé nouvelles qui pourraient être mises en place, d'abord au niveau mondial. Au niveau mondial, la grande question qui va se poser va être celle de la révision du règlement sanitaire international. Est-ce que cette révision va conduire à un pouvoir accru de l'OMS, qui serait sans doute souhaitable, notamment pour lui donner un véritable pouvoir de, sinon de sanction, du moins d'inspection, qu'il n'a pas aujourd'hui? Pour pouvoir aller dans cette direction, il faudrait qu'on ait un multilatéralisme très vivant, très actif, très positif. Je ne crois pas que la situation géopolitique actuelle soit de cette nature. Et donc, il n'est pas certain que les évolutions du règlement sanitaire international permettront les renforcements de la capacité de l'OMS, notamment à réagir rapidement, à intervenir massivement. On a entendu dans la presse parler d'un traité pandémie soutenu par un certain nombre de chefs d'État. Il y a également toutes les initiatives qui tournent autour de la notion de une seule santé, santé humaine, santé animale en particulier. Bon, il y a, c'est sûr, des idées qui ont été mises sur le tapis, mais est-ce qu'elles déboucheront véritablement sur une nouvelle politique de santé au niveau mondial? Ça n'est pas sûr. Au niveau européen, il est vraisemblable que, comme ça avait été le cas après la pandémie H1N1, des leçons vont être tirées et on ira, je pense, vers un renforcement des compétences de l'Union européenne en matière de santé. Elles sont aujourd'hui très limitées. Il y a eu, malgré tout, vous le savez, en 2013, un renforcement à la suite de la pandémie H1N1 qui a permis notamment cet achat groupé de vaccins qui, malgré tout, est une évolution favorable. On a entendu récemment la mise en place par la Commission européenne d'un groupe spécialisé pour la recherche et développement en matière de santé, notamment de vaccins. Il me semble qu'effectivement, l'Union européenne va sans doute faire des progrès dans le sens d'un renforcement au niveau de la sécurité sanitaire, d'un effort d'harmonisation, peut-être d'ailleurs facilité par l'impact du Brexit et par la prise de conscience d'une nécessité de souveraineté sanitaire européenne, notamment dans le domaine industriel. Enfin, et je terminerai là-dessus, qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui peut être fait au niveau national? Bon, je ne reviendrai pas sur les incertitudes qui sont liées à la stabilité de la volonté politique, au fait que d'autres événements peuvent survenir, qui peuvent finalement gommer l'impact et les leçons qu'on aura voulu tirer de cette pandémie. Il y a par exemple, j'ai vu ça des articles récemment dans Le Monde, il y a une volonté, c'est sûr, d'essayer d'encastrer la pandémie dans une approche, je dirais, écologique plus globale. Moi, il me semble que c'est une position idéologique qui n'a pas de véritable justification. La pandémie, elle est liée, c'est sûr, aux activités humaines, elle est liée bien sûr aux micro-organismes eux-mêmes, mais on ne peut pas lui dire que c'est une conséquence du réchauffement climatique ou de l'atteinte à la biodiversité. Donc, il est possible également que des positions idéologiques aboutissent finalement à ce qu'on oublie d'une autre manière l'événement qui est en train de se dérouler. Alors, si on évoque les possibilités de renforcement de nouvelles politiques de santé, je pense que la première, évidemment, et ce sera certainement mis en œuvre, c'est une reprise de la préparation au risque pandémique, c'est-à-dire reprise du travail de planification, d'exercice, d'évaluation, sans doute à l'initiative du secrétaire général de la Défense de la Sécurité nationale, en lien, j'espère, étroit avec le ministère de la Santé. On reprendra certainement la constitution des stocks stratégiques, ne serait-ce que de masques. Il y aura certainement un renforcement des activités de recherche et de développement dans le domaine de biologie santé, mais il me semble qu'il serait plus adroit de mettre ceci en œuvre au niveau européen pour des raisons de masse critique. On s'interrogera certainement sur l'expertise scientifique mise en place dans le cadre de cette crise, sur l'adaptation de notre système de recherche. Il est vrai que, aussi bien s'agissant de la production de vaccins que de médicaments, eh bien, on ne peut pas dire qu'ils soient sortis de la recherche en biologie santé française des innovations spectaculaires. Voilà. Est-ce que, au niveau français, il y aura une refonte, une révision de la politique de prévention en santé? C'est possible. Il est sûr que la préparation au risque pandémique n'est qu'un avatar, une des formes de la prévention en santé, dont on a toujours tendance à considérer qu'elle est sous-financée, ce qui est un peu vrai, mais je ne suis pas certain que ça entraînera une véritable révolution dans la place de la politique de prévention dans notre pays. On s'interrogera certainement sur une révision de l'offre de soins de réanimation, et il y aura sans doute des améliorations qui seront portées pour plus de flexibilité, peut-être une participation plus active du secteur privé. On s'interrogera certainement aussi sur le caractère trop contraignant de l'ONDAM, qui a aujourd'hui un objectif essentiellement de limitation des dépenses et qui évidemment n'est pas conduit par les besoins de santé. Mais comme les besoins de santé sont illimités, parce qu'on peut toujours mettre plus d'infirmières ou plus d'infirmiers autour d'un malade, il est sûr qu'il y aura nécessairement à considérer la question des dépenses. Enfin, et c'est les deux derniers mots que je voudrais évoquer, on se penchera certainement sur ce qu'on appelle la souveraineté sanitaire, c'est-à-dire la nécessité de produire sur notre territoire un certain nombre de médicaments qui aujourd'hui sont produits à l'étranger. On a vu les difficultés que ça pouvait représenter. Mais finalement, la question de fond va être de savoir d'abord, premièrement, comment et quand cet événement va se terminer. Et finalement, aujourd'hui, je ne crois pas que qui que ce soit puisse prédire véritablement quelle va être l'issue de cette épidémie, ni dans sa forme, ni dans son délai. Et le risque, finalement, c'est que, eh bien, en dehors des dégâts qui auront été causés, eh bien, on ne prête pas une attention suffisante au fait que ce type d'événement va nécessairement se reproduire, peut-être sous une forme un peu différente, et qu'il y est préférable de s'y préparer de façon très active, d'autant plus qu'on en a quand même aujourd'hui une certaine capacité à le faire. Voilà, je vous remercie de votre attention et je serai enchanté de pouvoir répondre à des questions s'il y en a. Merci.
Merci beaucoup, professeur Houssin, pour cette présentation des possibilités d'évolution d'une politique qui tienne compte des leçons de l'effet de surprise, je crois que nous pouvons quand même le dire, de la pandémie, alors que, vous l'avez rappelé, il y avait eu un précédent qui aurait pu permettre d'être un petit peu plus prévoyant, malgré tout. Alors, je vais me tourner vers Jean-Pierre Dupuis et lui demander à son tour de nous dire comment il voit, lui, l'évolution possible de la prise en considération de la santé, dès lors que dans son dernier ouvrage, il est assez polémique avec ceux qui ont voulu sous-estimer ou banaliser l'événement que nous sommes en train de vivre. Jean-Pierre Dupuis, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Et d'abord, Jean-Luc Poutier et François Havé, de cette invitation qui me fait très plaisir aussi. Moi, je ne vais pas vous parler de politique de santé. Je suis beaucoup moins expert en la matière que le professeur Houssin. Mais ce que j'observe, c'est que dans les débats auxquels nous assistons tous, plus ou moins, parce qu'on ne parle que du virus, à la radio, à la télévision, dans les magazines, etc., il n'est question justement que de cela, politique de santé, et plus précisément, on est pour ou contre le gouvernement et son chef. Bon. Moi, je ne roule pas pour le gouvernement, je ne suis pas un opposant systématique, ce n'est pas vraiment mon problème, parce que je ne me sens pas compétent. Mais dans tous ces débats, il me semble que l'on parle très peu d'un autre acteur, comme si on n'osait pas en parler. Dans le monde anglo-américain, qui est aussi le mien, Il y a un personnage de bande dessinée des années 50, enfin, qui reste toujours très connu, qui était un opossum et qui s'appelait Pogo. Et la phrase, une des phrases fameuses dites par Pogo, qui est restée dans toutes les... fait partie de la culture anglo-américaine, c'est « We've met the enemy, and the enemy is us ». Nous avons rencontré l'ennemi, et l'ennemi, c'est nous. Cet acteur qu'on oublie, c'est nous, les gens, le peuple. Et pourtant, nous sommes les premiers auxiliaires du virus, c'est Z, c'est nous qui le propageons. D'où cette première propriété singulière que ce virus a. Il substitue la contagiosité à la létalité. Je rappelle que la létalité, c'est le rapport entre le nombre de morts et le nombre de ceux qui ont attrapé le virus. Ce n'est pas la mortalité qui est le rapport entre le nombre de morts et la population. Bon, ce virus substitue la contagiosité à la létalité. J'ai un de mes collègues de Stanford, qui est un biologiste de l'évolution, accessoirement prix Nobel, Bill Durham, qui, l'an dernier, donc, pour faire comprendre ce qu'il essayait de dire, dotait le virus d'intentionnalité. Alors, le virus n'est même pas vivant. Puisqu'il lui faut, c'est un parasite et il lui faut la vie déjà là pour qu'il puisse être actif. Mais on peut dire que tout se passe comme si, et en se référant au mécanisme de la sélection naturelle derrière, si on veut être plus précis. Donc, ce virus, eh bien, il comprend que s'il tue son hôte, il se suicide. Donc, il a intérêt à ne pas tuer son hôte, à ne pas être létal, pour pouvoir être contagieux. Et effectivement, c'est ce qu'on observe, hein, sous la forme de ce qu'on appelle... Autrefois, on disait les mutants, je ne comprends plus, professeur Roussin, pourquoi on dit, je crois que c'est le political correctness américain, le mot mutant fait peur, on imagine des monstres ailés, bon, etc. On dit variant, bon, mutant. Les mutants de ce virus, en particulier l'anglais et le brésilien, effectivement, ont une contagiosité très forte. Ce qui fait qu'au total, la mortalité qu'ils causent est plus forte. Mais non pas parce qu'ils sont plus létaux, mais parce qu'ils sont plus contagieux. Le peuple, donc, les intellectuels que j'ai appelés covido-sceptiques, sur le modèle des intellectuels climato-sceptiques, que je prends à partie dans mon livre, et je ne vais pas citer de nom ici, hein, je ne vais pas donner l'impression que j'ai des comptes à rendre. Bon. Je critique les pensées, les idées, pas les personnes. Donc, mais ces intellectuels que je prends en partie rendent au peuple un bien mauvais service. Et je le montre de la manière suivante. Bon, ils accusent une cible à l'identité douteuse, le biopouvoir. Bon, tout ça vient de Foucault, de Michel Foucault, bien évidemment. Mais ce biopouvoir serait un cocktail de politique et de science. Comme si la politique et la science marchaient la main dans la main. On voit bien aux États-Unis comme en France que ce n'est pas du tout le cas, voir les rapports entre le président Macron et le professeur Delfrécy. Donc, on accuse le biopouvoir de renforcer son pouvoir, précisément, en prenant prétexte d'une grippette, je cite, pour sacrifier les libertés fondamentales et l'économie. Bon, la liberté, un bien joli mot. Mais quelle liberté? Celle de s'exposer au virus, je peux le comprendre. Je peux comprendre quand je peux dire qu'on est libre, même si on peut être en désaccord avec cette proposition, qu'on est libre de se faire du mal à soi-même. On peut être libre de fumer des cigarettes comme une locomotive, comme on disait, alors même qu'on sait qu'on a de fortes chances d'avoir le cancer du poumon. Admettons cela. On est libre de se faire du mal à soi-même. Mais est-on libre de le transmettre, ce mal, à d'autres? Ça, c'est autre chose. Et là, j'ai envie tout de suite, j'ai toujours eu envie de comparer avec le sida et son virus, le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Bon. Si vous savez que vous avez le sida et que vous avez un rapport non protégé, avec un ou une partenaire sans le lui dire, ben, c'est un crime puni par la loi. Bon. Ben, si vous transmettez en sachant que, non pas que vous avez le virus, mais qu'il y a une chance que vous l'ayez, par exemple, parce que vous êtes, le virus, on le sait bien aujourd'hui, il a des formes asymptomatiques. Bon, donc, vous ne savez pas que vous avez le virus si vous ne passez pas de test. Bon, dans l'ignorance, qu'est-ce que vous devez faire? Bon. Dans mon livre, je prends l'exemple de cette, en passant, vraiment, c'est pas cette assesseur, assesseuse, je ne sais pas comment on dit, au féminin, de Nancy lors des élections municipales de l'an dernier, il y a un an exactement. On lui demandait, avez-vous eu peur d'être comme ça à proximité de tous ces électeurs, etc. Elle a répondu ceci, oh, vous savez, il faudrait autre chose que ce virus pour me faire renoncer à mes devoirs civiques. Ben, un diable en moi m'a amené à traduire, « Oh, vous savez, il faudrait autre chose que ce virus. Excusez-moi, il faudrait autre chose que le risque de contaminer mes proches pour me faire renoncer à mes devoirs civiques. » Car cette personne devait savoir, même au mois de mai de l'an dernier, qu'en ayant le virus, on a de fortes chances de le passer à d'autres. On n'est plus au 5e siècle avant Jésus-Christ, le temps de Périclès, de Thucydide, de la guerre du Péloponnèse, etc. Je vous rappelle que le mot « épidémie » que nous utilisons vient de cette époque et signifie « au-dessus, épi hein, », épi, épiderme, au-dessus du derme, épitaphe, au-dessus de la tombe, etc. « Au-dessus du peuple, épi, démos bon. ». Pourquoi ce mot? Pourquoi le « dessus » Et parce que les Grecs, bien sûr, de l'époque, voyaient bien qu'il s'agit de la peste d'Athènes, hein, ce siècle, voyaient bien que lorsqu'ils étaient rassemblés, qu'ils avaient le plus de chances de tomber malades. Mais ils en inféraient, puisqu'ils n'avaient aucune idée d'une transmission horizontale, ils en inféraient que c'est ce qu'ils avaient tous en commun qui était la cause du mal. Or, qu'est-ce qu'ils avaient tous en commun? L'air qu'ils respiraient, les sémiasmes. D'où le mot épidémie. Nous savons aujourd'hui, et pas depuis si longtemps que ça, qu'il y a une transmission horizontale qui s'appelle la contagion. Mais j'ai l'impression que beaucoup de gens ne savent pas cela. Je ne veux pas les accuser d'avoir de mauvaises intentions et de contaminer les autres à dessein, donc c'est qu'ils ne savent pas. Bon, ma définition de la liberté, parce que je parle de liberté ici, remonte à Rousseau et à son disciple Kant, en l'occurrence. La liberté, c'est d'obéir à des lois, des règles qu'on s'est données à soi-même. Et je crois que le mauvais service que les intellectuels covido-sceptiques rendent au peuple, c'est de le détourner de règles simples qu'il se donnerait à lui-même s'il était bien formé et informé, en lui assénant que ces règles sont faites pour la servir, certains invoquant la barbarie, d'autres le Léviathan. Un tout petit détour par les statistiques, et je terminerai par ça. J'ai deux pays adoptifs. Bon, enfin, peu importe si vous voulez, c'est ma vie, mais le Brésil, qui est le pays de mes enfants et petits-enfants, et les États-Unis d'Amérique, plus précisément la Californie, où j'enseigne, où j'ai des attaches privées également. Bon, mes deux pays adoptifs, c'est pas n'importe quoi par rapport à ce virus, hein, le Brésil et les États-Unis d'Amérique. Bon, pas besoin de vous faire un dessin. Le rapport entre les populations, c'est en gros 1, 3, 5. La France, un peu moins de 70 millions. Le Brésil, à peu près trois fois plus, c'est-à-dire 210 millions d'habitants. Les États-Unis, cinq fois plus, c'est-à-dire 330, 340 millions d'habitants. Nombre de morts aujourd'hui, ou ces temps derniers. On va très rapidement vers 100 000 pour la France. Alors le Brésil, n'en parlons pas, parce que c'est vraiment un drame qui se passe là-bas. Mais enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, on pouvait penser qu'il y avait 300 000 morts. Bon, rapport de 1 à 3. Les États-Unis, le jour de la passation du pouvoir, enfin, entre guillemets, le 20 janvier dernier, il y avait 500 000 morts à peu près, et on va allègrement vers 600 000 morts. Donc c'est presque 1, 3, 5. Hein. Pas tout à fait, bien évidemment. Bon. Par ailleurs, la grippe espagnole, qui a toujours servi à dire ce qui nous arrive là, c'est une grippette. Regardons et en prenant la grippe espagnole comme quelque chose de vraiment sérieux. Alors, sans doute qu'à l'échelle de la planète, la grippe espagnole a été quelque chose d'énorme. Mais par rapport aux trois pays que je considère, la France, le Brésil et les États-Unis, ce n'est pas du tout le cas. La France, bon, les chiffres sont très mal connus, il faut bien lire, hein, c'était la Première Guerre mondiale. Bon, 150 000 pour la France, nous n'en sommes pas très loin. Les États-Unis, là c'est mieux connu, puisque cette fameuse grippe espagnole est née probablement aux États-Unis, l'Espagne n'a rien à voir dans l'affaire, au Kansas, 675 000. Bon, ben c'est en gros, on y va, ou on est tout prêt, et dans le cas du Brésil, sans doute, on a très largement dépassé ce qui s'est passé en 1919. Alors, que penser de cela? Ces taux de mortalité rapportés à la population, au moins pour la France et les États-Unis, sont à peu près identiques. Bon, le Brésil, aujourd'hui, on va vers 4 000 morts par jour, ce qui, si le rythme continue, donne de l'ordre de 1,5 million par an. Comment expliquer, deux questions, comment expliquer que les États-Unis ont des résultats qui n'ont pas été pires que ceux qu'ils ont été, et même, je peux dire, le Brésil jusqu'au carnaval, c'est-à-dire le Mardi Gras, comparé à la France? Résultats qui n'ont pas été bien pires que ce qu'ils ont été comparés à la France, alors que pendant un an, ils ont été gouvernés par des clowns meurtriers qui un jour, j'espère, paieront leur crime. Deuxièmement, comment expliquer que la France a des résultats qui ne sont pas meilleurs que ce qu'ils ont été comparés aux États-Unis, alors que l'équipe dirigeante, sans être transcendante, avait quand même d'autres atouts que Bolsonaro ou Trump, hein, on l'admettra. Bon, même les anti-Macron ne peuvent pas comparer à Trump et à Bolsonaro. Bon, ben, je crois que la seule réponse à donner, puisque quel que soit le gouvernement, qu'il soit du type bolsonarien ou du type macronesque, bon, ben, il reste le peuple et le comportement des gens. Alors effectivement, si je prends les États-Unis et même le Brésil, les États-Unis, comme on sait, c'est une démocratie. Enfin, Tocqueville déjà l'admirait entre 1830 et 1840. C'est une démocratie locale, démocratie du quotidien. En Californie, mais aussi ailleurs, mais c'est en Californie que je suis, les règles de base, qu'est-ce qu'on ferme, les restaurants, les terrasses, est-ce qu'on ouvre les terrasses et restaurants, est-ce qu'on ferme les écoles ou est-ce qu'on les ouvre, est-ce qu'on peut se déplacer de combien de kilomètres, etc. Ces règles sont définies au niveau du comté. Alors en Californie, il y a 58 comtés, counties en anglais, pour une surface qui doit avoir trois quarts de la France, en gros. Bon, donc, ça veut dire que le comté, le county, c'est en gros un département français, en moyenne. Hein? Eh bien, quand vous passez d'un comté à l'autre, les règles sont différentes. Bon, là où je suis, c'est la Silicon Valley. Stanford est au cœur de la Silicon Valley. C'est le côté ouest de la baie de San Francisco, qui va de San Francisco à San José. Il y a des règles. Si vous allez un peu plus haut vers San Francisco, c'est le comté de San Mateo, les règles sont différentes. Et ces règles varient d'une semaine à l'autre et collent à l'évolution de la pandémie. Bon, alors Trump là-dedans a eu une importance, bien évidemment. Mais même au Brésil, c'est ma fille, là j'ai des informations qui viennent directement de ma fille, c'est au niveau des États, hein, le Brésil est une république fédérale, comme les États-Unis d'Amérique du Nord. Et c'est au niveau des États que les règles sont définies. Elles ne sont pas les mêmes dans l'État de São Paulo, où heureusement vit ma fille et ma famille, et dans l'État de Rio, qui est le carnage absolu. Bon. Et peu importe le gouvernant, en l'occurrence, sa folie dans le cas de Bolsonaro, c'est les gens, d'eux-mêmes, se donnent des règles. Donc, ce n'est pas pire, voilà pourquoi. Bon, c'est très grave si ça se pose actuellement. Mais ce qui est, c'est grave, c'est à cause, et là, bon, on peut se rapprocher de la France, hein, c'est à cause du carnaval. Le carnaval, c'est sacré au Brésil. Hein. Vous avez certainement lu dans les journaux que le carnaval de Rio a été supprimé, mais ce n'est pas le carnaval de Rio, c'est la partie la plus touristique du carnaval de Rio, c'est le fameux défilé des écoles de samba qui a lieu du samedi au dimanche, toute une nuit, qui lui a été supprimé, parce que c'est, il y a peut-être, je ne sais pas combien de millions de personnes qui sont là rassemblées dans un espace réduit. Mais le vrai carnaval, c'est un carnaval de rue et, la nuit venue, de club. C'est-à-dire, vous avez 3 000, 4 000, 5 000 personnes qui dansent très proches les uns des autres dans un espace complètement confiné. Bon. Et ils n'ont pas renoncé à cela. Et c'est ce qu'ils payent actuellement. Bon, voilà un tableau où j'ai simplement voulu insister sur le fait que parfois, on peut dire que nous avons rencontré l'ennemi, et l'ennemi, c'est nous. Merci.
Merci Jean-Pierre Dupuis de cette intervention qui nous rappelle notre propre responsabilité en mettant l'accent sur cette dimension de contagion dont on n'est pas toujours conscient, mais qui évidemment est tout à fait centrale. Et puis, ces comparaisons entre les pays qui font ressortir toute l'importance justement de la gestion de proximité, et encore une fois, de la responsabilité peut-être plus sensible au niveau de proximité que dans les grands appareils. Alors, peut-être un petit temps éventuellement d'échange entre les deux intervenants, s'il y a des questions ou des remarques à faire mutuellement. Alors, il y avait peut-être une première question très rapide de Jean-Pierre Dupuis au professeur Roussin sur variant ou mutant. Alors, est-ce que, Didier Roussin, vous avez une réponse à donner sur cette question? Attendez, remettez votre micro.
Pardon. Oui, oui. J'ai observé comme vous ce glissement sémantique. Et effectivement, votre interprétation est peut-être juste. Peut-être que le mot mutant fait plus peur.
Oui.
Il faut reconnaître que les variations sont aussi des petites modifications. Ce n'est pas une mutation au sens où le virus aurait une apparence tout à fait différente. Ce sont des petits glissements génétiques qui finalement se traduisent par des petites modifications, mais qui peuvent avoir une importance, comme vous l'avez dit, en termes de contagion ou d'effets pathogènes,
voilà.
Voire d'effets, voire de résistance à un éventuel vaccin, ce qui n'est pas Absolument. Encore observé nettement, mais qui pourrait malheureusement nous arriver.
Absolument.
Professeur Roussin, est-ce que vous avez des remarques ou des questions à adresser à Jean-Pierre Dupuis sur son intervention?
Moi, j'en avais une, c'est qu'effectivement, je partage entièrement l'analyse que les épidémies, ce sont les hommes, et que donc le peuple est un élément dominant de cette affaire, même si le micro-organisme joue sa partie et a sa stratégie, comme vous l'avez dit. La question que je voudrais poser, c'est celle de la culpabilité. Parce qu'à partir du moment où on dit l'ennemi, c'est nous, on retombe dans le sujet qui est, je dirais, très ancien de la question de la culpabilité face aux épidémies. Et donc, qui dit culpabilité dit aussi bouc émissaire, etc. Qu'est-ce que vous en dites de ça?
Voilà, mais merci de cette question parce qu'elle elle va au fond des choses. Moi, j'essaye de penser la responsabilité sans la culpabilité. Vous vous souvenez sans doute, en disant cela, tout d'un coup, je pense à une ministre qui avait dit, moi je suis, c'est l'histoire ancienne, je suis, mais pas coupable. Hein.
Responsable, mais pas coupable.
Voilà, et tout le monde avait rigolé, tout le monde avait rigolé en disant, c'est une excuse vaseuse. Mais moi, je crois que c'est une distinction fondamentale. On peut être responsable sans être accusé de ceci, cela. Bon, alors, il faut bien le dire, hein, cette distinction est d'autant plus essentielle à faire que derrière, et là aussi le gouvernement manque de, enfin, je ne veux pas taper dessus, mais enfin, de clarté ou de courage, ou etc., que c'est la question des générations, bien évidemment. Hein. J'y ai fait allusion en passant. Il faut dire que les cas asymptomatiques de la maladie qui s'appelle COVID-19 sont, c'est peut-être de moins en moins vrai, sont le fait de plus de jeunes que de vieux. Bon. Mais justement, alors, est-ce qu'un comportement éthique dans ce cas-là, éthique raisonnable, bon, serait, quand on sait cela, qu'on peut avoir le virus, mais que, alors d'ailleurs ceci vaut également pour les gens vaccinés aujourd'hui, hein, puisqu'on ne sait vraiment pas, enfin on en sait un peu plus aujourd'hui qu'il y a un mois, mais on ne sait pas vraiment si lorsqu'on est vacciné, bon, et si on attrape le virus, certes on sera pas malade, puisqu'en principe on a les anticorps qu'il faut pour ça, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas contagieux. Donc même lorsqu'on est vacciné, on doit savoir qu'on peut être porteur du virus, donc contagieux, et on devrait en tenir compte, me semble-t-il. Bon. Alors, d'autant plus qu'il y a autre chose qu'il faut dire aussi, hein. C'est sur la fameuse exponentielle. Non, mais là, moi, excusez-moi, un des thèmes de mon livre, hein, c'est que dans une société complètement façonnée par la science et la technique, comment expliquer qu'une comment est-ce qu'une démocratie est possible lorsque ses dirigeants et ses intellectuels qui ont de l'influence sont des analphabètes en matière de sciences et techniques. Bon, ça, c'est une question absolument fondamentale. Bon. Ma génération, on a appris ce qu'est une fonction exponentielle, je ne sais pas, quand on avait 14, 15 ans à peu près. On apprenait que l'exponentielle, c'est lorsque l'accélération est proportionnelle à la vitesse. Plus on va vite, plus par unité de temps, on va encore plus vite. Bon. Donc, c'est des phénomènes auto-renforçants. On dirait aujourd'hui à feedback positif. Voilà, des phénomènes auto-renforçants. Donc, si on comprend cela, on comprend que n'importe quoi peut être la source d'un embrasement. Hein? Total. Donc, il n'y a pas besoin que 70% de la population se comporte du peuple dont je parlais, des gens, comme dirait un homme politique connu. C'est un beau mot, les gens. Il n'y a pas besoin que 70% d'entre eux se conduisent mal. Il suffit que 10% se conduisent mal. Et du fait des prodiges, du fait de ces phénomènes d'auto-renforcement, hein, comme dans une bombe atomique ou même dans une centrale atomique. Ben, ça explose comme ça. Hein. Si vous faites le calcul, bon, supposons que le taux, fameux taux R soit égal à 2, hein, avec les nouveaux mutants, variants, et en 10 périodes, vous êtes déjà, je ne sais pas moi, enfin bon, là il faut faire le calcul, hein, 2 à la puissance 20. Bon, si quelqu'un a une machine à calculer, ça doit... Alors on peut faire 2 à la puissance 40 et on va très rapidement arriver à des centaines de milliers. Donc, il faut savoir tout cela. Et je me dis, comme Rousseau, qu'un peuple bien informé qui délibère ben, exprime sa volonté générale. Mais pour ça, il faut qu'il soit bien informé. Et bien formé, je dirais. Et bien formé.
Il y a d'ailleurs une des questions qui est posée par Alice Mindron, qui est une question justement sur la consultation du peuple et sa non prise en compte dans un événement comme celui-ci. Alors effectivement, moi je constate que alors qu'on est, vous l'avez dit, on est conscient que le peuple a un rôle majeur à jouer, ne serait-ce que parce qu'il est l'acteur numéro un, finalement les circonstances de l'urgence font qu'on finit par pas le négliger, mais ne pas le mettre au centre du jeu.
Oui.
On a évoqué la faiblesse des consultations de la population, le rôle de la Conférence nationale de santé, par exemple en France, a été quasiment absent. Il est vrai que les lois d'urgence font refluer beaucoup de choses, et c'était sans doute un des aspects aussi qui est marquant dans ce type d'événement, c'est que finalement l'urgence, par sa tyrannie, annule un peu tous les efforts qui pourraient être faits pour essayer de tenir compte de la position du peuple mieux.
Mais il y a aussi le rapport entre le pouvoir politique et le pouvoir médical. Un pouvoir politique ignare dans ces matières. On dit que tout d'un, on dit, mais là, on va être dans les discussions de salon, que Macron est devenu un expert en épidémiologie et en logique. Bon, je veux bien, mais enfin, ça, c'est pas en une semaine qu'on se forme à ces choses. Bon. C'est depuis l'âge de 13 ans, 14 ans. Bon. Ces histoires de phénomènes auto-renforçants, de feedback positif, c'est essentiel pour comprendre le monde. Bon, encore une fois, si vous avez ce phénomène auto-renforçant, la contingence devient une cause. Hein? On peut imaginer une forêt très sèche, en été, comme en Provence ou en Californie. La moindre petite... Il n'y a pas de mégot en Californie. Enfin, le moindre petit mégot peut embraser toute la forêt, enfin, une grande partie de la forêt. Ben, c'est ça qui se passe.
Oui, Jean-Luc, tu veux intervenir?
Oui, justement, sur les remarques, les réflexions de l'un et de l'autre, Jean-Pierre Dupuis citait Rousseau et le citoyen informé. Manifestement, il y a un problème d'information et de préparation face à une telle crise de l'ensemble des citoyens. Le professeur Roussin disait que chacun, bien informé et motivé, devienne acteur de santé pour lui-même et les autres. Or, l'impression qui est donnée à l'heure actuelle, c'est que sur ce plan, il ne se passe rien. Du point de vue pédagogique, je dirais tout simplement, enfin, au-delà de l'information qui est donnée par les grands médias, qu'est-ce qui est fait pour initier l'ensemble des citoyens à la responsabilité face à un tel danger? En voiture, il y a un code de la route.
Oui. Enfin, je ne sais pas à qui tu poses la question, mais si c'est à moi, bon. Pour moi, c'est moins une question d'information que de formation. Il faut comprendre les concepts. Alors, je parle pour ma paroisse, peut-être, la philosophie des sciences, mais enfin, il faut comprendre les concepts. Et on ne comprend pas les concepts en lisant une notice Wikipédia. Enfin, bon, c'est vraiment une question de formation. Mais là, dans l'urgence, évidemment, on a les citoyens... qu'on a. Mais là, je parle des citoyens, mais c'est aussi les leaders d'opinion, à savoir par les leaders politiques et les grands, entre guillemets, intellectuels. Et ça, c'est aussi une différence avec les États-Unis. Hein. Je ne veux pas idolâtrer les États-Unis. Bon, donc je vois vraiment, c'est bien les Américains qui ont voté pour Trump. Bon. Et les intellectuels français, bon, pour la plupart, surtout plus on en parle, plus on parle d'eux, plus c'est le cas, n'ont pas la moindre formation en science et en technique. Enfin, bon. Et bien souvent, d'ailleurs, ils se flattent de cette ignorance. Bon, quelqu'un qui ne saurait pas à quel siècle appartient à la Révolution française, bon, ne serait pas invité sur France Culture. Hein, bon, enfin, il serait considéré comme, ça ne veut pas dire que ce serait un être médiocre, mais bon, il ne serait pas considéré comme cultivé. Quelqu'un qui ignore la règle de trois, ou quelqu'un qui confond valeur moyenne et valeur médiane d'une variable aléatoire, non seulement peut passer où il veut, mais même il peut rire ou sourire lorsqu'on lui montre qu'il se trompe. Bon. Dans mon livre, je prends plusieurs exemples de ce genre. Hein. Bon, donc là, c'est vraiment une question de formation de base. Je suis désolé, dans une société scientifique et technique, et lorsqu'on a affaire à des choses comme ce virus, qui si on, alors que si on veut le combattre, ben, il faut effectivement mobiliser tout un des tas de concepts, plus que des informations. Des concepts, plus que des informations. Eh bien, on est démunis, évidemment. Bon.
Professeur Roussin.
Oui, alors, moi, sur le comportement des populations, je suis moins pessimiste. J'avoue que je trouve que il y a une... Parce que malgré tout, que peuvent faire les citoyens, finalement, sinon essayer de suivre les recommandations qui leur sont faites, qui sont fondées sur la science. Ça, moi, en France, je ne crois pas qu'on puisse en douter, même si cette science est fluctuante, peut évoluer dans un sens, dans un autre. Mais c'est vrai que porter le masque, le lavage des mains, éviter les rassemblements, se faire vacciner. Alors, sur la vaccination, on pourrait y revenir, mais moi, je prends le métro tous les jours. Je suis assez frappé de constater que finalement, les comportements sont des comportements tout à fait, lorsque les gens en ont la possibilité, sont tout à fait conformes à ce qui est attendu d'eux. Et ils le font sans... Voilà, donc je ne suis pas trop pessimiste sur le comportement des gens. De même, je trouve que la qualité de l'information véhiculée par les médias, je parle de la presse écrite, hein, j'avoue, je connais moins bien, et radiophonique, je connais moins bien ce qui se fait et ce qui se dit à la télévision, mais je trouve que c'est d'un niveau assez bon. Et dans l'ensemble, je trouve des articles qui vont au fond des choses et intéressants. Voilà, alors, mais effectivement, ça n'est pas suffisant pour bloquer une pandémie parce que c'est un phénomène extrêmement complexe et on voit bien les difficultés qu'on a à le maîtriser. Malgré toutes les ruses qui ont pu être mises en œuvre, on est face à un adversaire qui est extrêmement, extrêmement fort. Hein.
Mais vous venez de dire qu'il y a des articles très bons, très bien, très, très, enfin, des articles remarquables même. Je suis complètement d'accord. Vous dites qu'il y a beaucoup de gens qui se conforment, etc., aux règles de bon sens pour beaucoup. Mais je répète ce que je disais tout à l'heure. Il ne suffit pas, je veux dire, il n'y a pas besoin de 70-80% de gens qui se comportent mal et d'articles mauvais pour que le problème soit grave. Il suffit qu'il y ait des articles bons, certes, mais au milieu, enfin dans un océan de n'importe quoi, et comment est-ce que les gens vont faire la différence entre tel article et tel autre ? Hein ? Dites-moi, c'est ça le... Bon, comment est-ce qu'ils vont repérer que tel article est vraiment bien et que tel autre ? On pourrait prendre des exemples. Alors, pareil pour les comportements individuels. Je répète, du fait de ces phénomènes d'auto-renforcement, il suffit qu'une petite minorité de la population se comporte mal pour que ça flambe, comme dans une forêt de sèche de Provence l'été. C'est ça que j'essaye de dire. Ben regardez le Brésil actuellement, il paye, ça, je crois que les Brésiliens sont, enfin les Brésiliens qui réfléchissent à ces questions, on s'en conscient, ils payent le carnaval tout simplement. Bon, mais le carnaval, ce n'est pas une rigolade au Brésil, c'est essentiel. Mais ils le payent là, bon, c'est une image. Alors, la chose extraordinaire, j'ai des photos des... Si vous voulez, la ville de Rio est une ville. Il y a pas, la baie de Rio n'existe pas d'ailleurs. Hein, vous savez, c'est l'invention des Français. Ça. Il y a une toute petite rivière qui débouche dans l'océan. D'ailleurs, se versent aujourd'hui les égouts de la ville. Bon, sinon, il y a 85 km de plage. La ville étant aux trois quarts circulaire autour de la montagne centrale qui s'appelle Corcovado. Ces plages sont vides aujourd'hui. Vous m'envoyez des photos, elles sont vides. Il y a des centaines de milliers de personnes, sinon, vous imaginez, sur 90 km de plage. Bon, ils essayent de bloquer le truc. Mais enfin, je crois que la ville de Rio n'a jamais connu ces 90 km de plage vides. Bon, c'est assez... Ce qui se passe, tout ce qui se passe, d'ailleurs, est extraordinaire dans notre monde aujourd'hui. Non, mais j'insiste sur le fait qu'il suffit qu'il y ait une minorité, plutôt que vos articles dont vous parlez soient dans une mer de n'importe quoi, et on ne saura pas qu'est-ce qui est, voilà, qu'est-ce qui est le bien, qu'est-ce qui est, bon, enfin, vous comprenez ce que je veux dire, là, je bafouille, là, maintenant. Et de même, il suffit d'une minorité de gens qui font n'importe quoi dans leur comportement pour que ça flambe. C'est, moi, je prends au sérieux cette idée de exponentielle, si vous voulez. Sauf que les gens utilisent le mot exponentiel au synonyme de grand maintenant. Hein. La bêtise est exponentielle. Enfin, vous entendez des choses comme ça. Vous entendez des choses comme ça. Alors, il faut rappeler qu'il y a des exponentielles négatives hein, et qu'on sait tous ce que c'est. Hein. Une exponentielle négative, c'est par exemple mathématiquement, c'est une fonction dont la valeur diminue d'un pourcentage constant par unité de temps, bon, moins 10%, moins 10%, moins 10%. On n'atteindra donc jamais zéro, mais c'est exactement comme ça se comportent les substances radioactives. Hein. Le plutonium 239. Qui pollue la magnifique forêt autour de Tchernobyl, sa demi-durée de vie, puisque c'est, est de 24 000 ans. Bon, donc il faut 24 000 ans pour qu'un gramme devienne la moitié d'un gramme. Donc ça, c'est une exponentielle, mais une exponentielle négative.